Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Logan Maheu. Il est candidat du Parti Breton aux législatives dans la deuxième circonscription des Côtes d'Armor, la circonscription de Dinan. Il est venu tout exprès au micro de Bretagne 5 matin. Il a fait la route, je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de politique, ça ne vous aura pas échappé. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et voilà, on est dans la dernière ligne droite. Vous serez le dernier invité de la matinale pour ce premier tour, en tout cas pour cette campagne du premier tour des élections législatives anticipées. Et on est dans un contexte, dans un climat particulier. Et j'ai envie de dire, plus territorialement, du côté du Parti Breton, comment vous voyez ce climat qui agite la sphère politique française et qui divise, il faut bien le dire actuellement.
Bah effectivement, c'est une situation chaotique qui divise beaucoup les citoyens et les citoyennes. D'une part, parce que on se retrouve avec trois blocs. Un bloc Rassemblement National qui, je pense, est un vote de contestation, de colère par rapport à l'échec de toutes les politiques qui ont été appliquées ces dernières années. Un bloc qui reste macroniste, qui reste modéré, enfin qui ne veut pas des extrêmes, et un bloc nouveau Front Populaire. Donc effectivement, qui réunit beaucoup de partis de gauche, mais principalement l'extrême gauche de la France Insoumise, les écologistes et le Parti communiste.
Voilà,
donc les gens, pour moi, se retrouvent en fait à choisir entre trois gros blocs qui ne représentent pas forcément leurs convictions, en fait, qui ne reflètent pas forcément ce qu'ils pensent. En fait, c'est plus, on part plus sur du vote utile.
J'allais vous poser la question, il y a donc une alternative, l'alternative régionaliste que vous représentez avec le Parti Breton. On a vu les Bretons se tourner, et ça c'est assez rare pour le signaler, vers le Rassemblement National lors des élections européennes, en tout cas du 9 juin. Pour vous, c'est un vote de colère, c'est un vote de déception. On n'écoute pas les Bretons, on n'écoute pas plus largement les Français, ils veulent autre chose.
Oui, alors ils veulent autre chose. Nous, ce qu'on propose, c'est une autre alternative qui est souvent méconnue. Et justement, le but, c'est vraiment aussi de la faire connaître. En fait, c'est de délocaliser en fait le pouvoir en Bretagne, dans les régions aussi plus précisément. Donner plus de pouvoir, plus d'autonomie, d'émancipation. Je préfère dire émancipation en Bretagne, permet de mieux cibler les problématiques locales, les problématiques des gens, parce que ça ne va pas être les mêmes en Bretagne, par exemple, qu'en région parisienne, qu'en Alsace, etc. Donc, donner plus de pouvoir, que ce soit sur la fiscalité, sur l'enseignement, etc., aux régions.
Voilà, donc décloisonner d'un côté, décentraliser, on peut reprendre le terme d'un autre, donner plus de pouvoir, alors qu'aujourd'hui les régions, on a l'impression que c'est un peu un nivellement très jacobin, c'est le terme souvent employé.
C'est ça.
Voilà, donc plus d'autonomie, alors on prend le terme générique, autonomie, émancipation si vous le préférez, au niveau des régions. On a des régions spécifiques qui depuis des années, on pense à la Corse, on pense évidemment à la Bretagne, qui se battent pour cette émancipation, pour ce détachement de pouvoir central. On garde quand même un pouvoir central aujourd'hui pour tout ce qui est régalien. On pense à l'armée, on pense à l'éducation.
Exactement, oui. Il y a tout ce qui est régalien, pour le moment, c'est déjà... Ça doit rester central. Par rapport à l'éducation, il y a un socle commun, mais par contre, on doit quand même avoir une part, pour moi, d'éducation qu'on peut modeler au niveau régional. C'est-à-dire, d'une part, au niveau de l'histoire, parce que l'éducation nationale française n'enseigne pas l'histoire régionale. L'histoire bretonne est très riche. Peu de gens la connaissent très succinctement, tout comme je pense l'histoire basque, l'histoire corse, etc., n'est pas forcément enseignée dans les écoles. D'une part, donc on devrait pouvoir modeler un petit peu, qu'on puisse modeler en tout cas cette éducation aux régions, et d'autre part en langue régionale également. Donc par exemple en Bretagne, la langue bretonne et la langue galaise vont être concernées, donc on puisse favoriser vraiment l'immersion en bilinguisme dans les écoles. donc en langue régionale et en langue française.
Qu'on garde finalement les socles éducatifs généraux et que on y ajoute évidemment ce qui fait la spécificité des régions, la richesse des régions et la culture des régions, car la langue c'est aussi ou les langues en ce qui nous concerne c'est aussi la culture. Justement, il y a une inquiétude du monde culturel aujourd'hui, il est riche ici en Bretagne quant à la montée du Rassemblement National, on a vu les chiffres, ils sont importants. J'imagine que du côté des régionalistes, du côté du parti breton que vous représentez, là aussi il y a une inquiétude et de la montée du Rassemblement National et des risques pour la culture.
Ah oui, bien sûr, parce que je peux citer par exemple, je vais partir du début, enfin un exemple qui est très concret, et là il n'y a pas que le Rassemblement National, il y a toutes les gros blocs politiques actuels, c'était la loi Molac.
Je précise pour les auditeurs, Paul Molac, voilà, qui est le député sortant Lyot de la circonscription de Ploermel.
C'est ça, donc qui avait proposé des textes de loi favorisant justement l'enseignement en immersion, la signalétique sur l'espace public, etc. Ça a été voté, donc principalement, enfin ça a été adopté, mais ça a été voté contre par les députés de la France Insoumise, retoqué en Conseil constitutionnel. Donc ça, à l'époque, c'était Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui avait envoyé ça au Conseil constitutionnel. Ce qui fait que, par exemple, pour les écoles bilingues, d'Iwan en Bretagne, par exemple, elles se retrouvent dans un statut d'anticonstitutionnalité. Mmh. Donc, pour le moment, elles ne sont pas menacées. Mais si demain, le Front National, le RN, Rassemblement National, vient à passer, ces écoles pourraient être, pourraient être supprimées, pourraient ne plus toucher d'aide, de financement, etc. Et voilà. Ça, c'est un danger. Quand on voit également que, par exemple, le député, le représentant du Rassemblement National au Parlement de Bretagne est opposé justement à ces langues. Quoi. Pour lui, la langue de la République est le français, et donc ça représente un danger.
Il y a ce danger de nivellement finalement des cultures avec l'imposition d'une culture générale, la culture française. Vous n'opposez pas néanmoins la France et la Bretagne, les deux ont besoin l'une de l'autre.
Oui, bien sûr, ce qui fait aussi la richesse de la France, c'est toutes ces cultures, en fait, c'est cette diversité. Faut pas plonger dans l'uniformisation, parce que justement, si on uniformise tout, on a tous la même culture, la même langue, la même, enfin, c'est pas concevable, la même alimentation, la même architecture, et ça se retrouve de plus en plus à tous les niveaux. Hein, comme je le dis, par exemple, même au niveau de l'architecture des bâtiments. Pour ça, moi, je suis farouchement opposé à cette uniformisation. De la même façon qu'on ne verrait pas, par exemple, la France avoir la même langue internationale, enfin l'anglais partout, imposé partout, la même... Voilà.
Justement, dans le monde actuel, en plein bouleversement géopolitique, on voit beaucoup de choses bouger. Alors, hier soir, il y avait un autre débat, c'était aux États-Unis entre Donald Trump et Joe Biden. Donald Trump qui risque de revenir, donc bouleversement politique. On voit l'influence des États-Unis sur l'Europe et sur la France en particulier, mais aussi les autres influences. Aujourd'hui, la Chine prend beaucoup de place. C'est une forme, là aussi, de recomposition géopolitique, mais de recomposition culturelle aussi. Comment, j'allais dire, alors je mets tous les guillemets qui s'imposent, la petite Bretagne, j'entends petite dans le sens territorial par rapport au grand continent, peut exister face à ces géants.
Pour moi, faut pas oublier que la Bretagne, c'est une nation européenne. Donc, en fait, nous sommes culturellement, en fait, européens, en fait. Donc, faut pas... on est plus du côté occidental.
Donc, elle peut exister, la Bretagne, dans cette mondialisation qui galope.
Oui.
Alors, on va parler aussi des sujets qui intéressent les Bretons. On pense au pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est la grande préoccupation, le pouvoir d'achat. On a entendu les différents leaders politiques s'exprimer sur le pouvoir d'achat. Moi, j'aimerais avoir l'éclairage du parti breton, parce que aujourd'hui, effectivement, cette préoccupation qui est française est aussi bretonne. On a une économie assez dynamique en Bretagne, mais avec les difficultés qui vont avec, on pense à l'inflation. Là aussi, pouvoir peser sur les décisions économiques et justement donner du pouvoir d'achat aux Bretons?
En ayant plus de, d'autonomie, on pourrait prendre des décisions plus proches de la, enfin, des Bretons. Mais pour moi, il faudrait plus jouer sur les circuits courts. Déjà, favoriser les circuits courts, stimuler les petites et moyennes entreprises au niveau du territoire. Je pense que déjà, au niveau transport, au niveau taxes, etc., on y serait gagnant, en fait. Donc, le consommateur, il serait gagnant. Les entreprises, ils seraient gagnantes. Je pense que tout le monde y serait gagnant en faisant marcher vraiment ces circuits courts plutôt que de dépendre de, bah de grosses plateformes. Donc, par exemple, pour l'alimentaire, on peut citer peut-être Rungis. C'est déjà une des premières mesures, quoi.
On peut imaginer aussi de revoir le système agricole. La Bretagne est une terre agricole, s'il en est. On a vu, les agriculteurs sont en colère. Je dis sont, car on les entend peut-être un peu moins dans les médias eu égard à l'actualité de ces derniers jours. Mais les agriculteurs sont en colère. Comment justement, là aussi, favoriser une agriculture peut-être plus régionale, plus locale parfois même, et s'affranchir des règles parfois contraignantes. Alors on pense à toutes les normes qui gèrent l'agriculture, mais tout en restant aussi dans une démarche plutôt environnementale.
Faudrait protéger justement, appliquer une protection contre les importations qui respectent pas forcément nos normes, en fait, au niveau agricole. Déjà ça, et puis je pense qu'il faudrait aider aussi tout ce qui est filière biologique, d'agriculture biologique, et de circuits courts, de petits producteurs, en fait, qui se lancent et qui ont parfois des difficultés, parce que les petites exploitations souvent se retrouvent en difficulté très régulièrement.
Là aussi, le fait de pouvoir décider en région, de pouvoir décider en Bretagne, ça peut favoriser les remontées du terrain, comme l'on dit souvent, ce que les agriculteurs ou ce que monsieur, madame, tout le monde dit au quotidien, ça remonte pas forcément jusqu'au ministère au pluriel concerné. Là aussi, c'est plus facile lorsque l'on a un député sur le terrain, un conseiller régional, un conseiller départemental, de pouvoir faire remonter et de pouvoir décider sur place.
Bien sûr, c'est rapprocher en fait le représentant du peuple, en fait, d'être vraiment sur le terrain, de pouvoir par exemple partager à l'Assemblée de Bretagne, ou même ça peut être à tous les niveaux, au niveau d'une commune, au niveau d'un département, parce que qui mieux que le représentant qui est confronté à ces problématiques directement tous les jours va mieux savoir traiter le problème. Parce que à Paris, il y a une déconnexion d'une certaine classe politique, du reste de la classe politique, donc des représentants, par exemple, des députés actuellement, mais aussi des élus locaux, donc les maires, les régions, etc.
On les écoute pas finalement à Paris.
Pour moi, je pense qu'il y a une déconnexion complète d'une part de la classe politique.
C'est aussi une des raisons de la colère des Français, des Bretons, avec ce vote protestataire, on peut le dire comme ça, pour le Rassemblement National, de dire voilà, on ne nous écoute pas, alors voilà, on se fâche dans les urnes.
Oui, je pense que c'est ça, c'est une façon de s'exprimer de mécontentement, qui est pas la bonne voie. En tout cas, pas dans les intérêts bretons, pas dans les intérêts de la Bretagne. Donc voilà, on propose autre chose, on essaie d'expliquer aux gens. Après, c'est compliqué de se faire entendre aussi. C'est aussi pour ça, moi, je vous remercie de nous avoir invités sur votre plateau.
Eh bien, nous, on essaie de donner la parole à tous. Alors, ça a été très compliqué sur ces élections. On n'a pas pu recevoir tout le monde. Évidemment, là, je fais une petite parenthèse parce que, voilà, le délai était très court. Et on a compris aussi que les candidats étaient beaucoup sur le terrain, avec aussi des activités professionnelles. Je crois que c'est votre cas.
Oui.
C'est pas facile non plus de concilier la parole dans les médias et en même temps de vivre sa vie à côté et son engagement politique. Donc, voilà, on a essayé de donner la parole à toutes et à tous. C'est pas toujours évident. Mais on voulait entendre quand même cette parole régionale. Alors, il y a aussi une grande préoccupation ici en Bretagne, c'est le logement. Ça fait des années hein, que l'on voit les difficultés des Bretons, et souvent des jeunes Bretons. Alors, quand je dis les jeunes, c'est pas pour faire du jeunisme, mais qui s'installent, qui démarrent dans la vie et qui ne peuvent pas se loger.
Là-dessus, on vit une situation catastrophique dans le sens où maintenant, même des jeunes, donc que ce soit des saisonniers ou même permanents sur le territoire, des jeunes actifs, ne peuvent pas se loger, en fait, ne trouvent pas. Donc, soit par question de coût, soit par question d'indisponibilité. Et on a vu ces dernières années des jeunes devoir dormir dans des tentes, dans des campings, alors qu'ils travaillent. C'est ahurissant de voir cette situation. Donc c'est un exemple. Moi, je vois autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu beaucoup de mal à trouver de quoi se loger, et d'autant plus sur les côtes, sur le littoral. Donc les prix sont inabordables. Donc ça fait que tous les jeunes actifs, en fait, sont obligés de louer ou d'acheter plus dans les terres. Et se retrouvent loin parfois de leur famille, de leur travail, de leurs racines. Donc voilà. Nous, on a des solutions qu'on propose par rapport à ça.
Alors, quelles solutions, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Déjà, il faudra encadrer les prix par rapport au pouvoir d'achat des Bretons, parce que ce n'est pas le même pouvoir d'achat qu'en région parisienne, par exemple. Donc déjà, il y aurait ça. Encadrer aussi les résidences secondaires et puis mettre en place un statut de résident, donc, c'est-à-dire favoriser les actifs travaillant en Bretagne pour accéder au logement.
Voilà, ce statut de résident, il fait couler beaucoup d'encre. Il avait été porté aussi, alors voilà, on va parler de la concurrence, par l'UDB, parti régionaliste. Vous vous retrouvez justement sur ces points-là, malgré les points de divergence?
On a des points de divergence, mais je pense qu'on se bat quand même pour la Bretagne, pour les intérêts des Bretons. C'est sûr que c'est des points de vue différents. Au niveau du statut de résident, moi, je suis à 100% d'accord. Hein. Et je pense qu'il n'y a pas que l'UDB aussi qui en parle. Et la problématique est sûrement aussi partagée dans d'autres régions. Donc ça, je pense que ça, c'est un sujet qui peut se discuter aussi au Parlement, au niveau français. Parce que ça ne touche pas que la Bretagne, j'imagine.
Alors, vous parliez tout à l'heure du Parlement de Bretagne, Nogent-Maeu. Il faut supprimer les conseils départementaux, il faut grouper les conseils départementaux, par exemple, avec la région, pour avoir une région plus forte et des territoires plus forts.
Oui. Les départements, même au niveau de la gestion, pour avoir une meilleure organisation du territoire, je pense que les départements devraient être... devrait moins représenter, en tout cas, on devrait donner moins de pouvoir aux départements, et d'autant plus que les départements ne reflètent pas, ça c'est plus historique et culturel, les anciens pays de Bretagne, en fait. Et,
ce sont des frontières qui ont été faites artificiellement.
C'est ça. Je pense que la région et les collectifs, donc les communes, devrait avoir plus de pouvoir, plus de marge de manœuvre, en fait.
On entend du côté du Rassemblement national la possible suppression des régions. Pour vous, c'est une hérésie?
Bien sûr, c'est une hérésie. Pour moi, je serais pour supprimer la région Bretagne administrative actuelle pour la remplacer par une vraie Bretagne à 5 départements. Par contre, il est hors de question de supprimer les régions, parce qu'on a vraiment en Bretagne une identité qui est forte par rapport à notre région. Les gens sont très attachés à la Bretagne. On entend rarement quelqu'un dire « je suis fier d'être costard-mauricain » ou « habitant d'Ille-et-Vilaine » ou « ligérien ». En fait, généralement, ils vont être plus à dire « je suis fier d'être breton ». C'est quelque chose qui tient, en fait, je pense, à beaucoup de gens en Bretagne.
Et en plus,
on a une
ancrage.
Histoire. Ouais, au niveau ancrage, c'est ça. On a vraiment une identité qui est forte, une histoire, une langue, une culture qui est propre à nous-mêmes. Mais ça, c'est valable pour la Bretagne, mais c'est aussi valable pour d'autres régions. Je ne verrais pas les Normands se faire supprimer leur région, les Occitans et les Alsaciens.
Voilà, on évitera de parler parler du Mont-Saint-Michel, évidemment, ce matin. Il est de fait que la Bretagne est aussi une terre d'accueil. Depuis toujours, la Bretagne a accueilli ceux qui venaient et partaient aussi très loin, voyager. Il y a des Bretons aux quatre coins du monde. Certains même nous écoutent ce matin, bien loin sur la planète, bien loin de la terre natale, allais-je dire. On voit aussi cette cristallisation de la crise de l'immigration, puisqu'on entend les partis politiques essayer de trouver une solution à cette ce qui a été donné comme une crise migratoire, mais en tout cas essayer de trouver des solutions, très différentes selon les partis politiques. Et puis on voit aussi que ça inquiète les Bretons, ça inquiète les Français, cette immigration aujourd'hui. Les partis n'ont pas su rassurer, d'autres en ont profité peut-être pour, je pense au Rassemblement National, pour dire voilà, nous on va mettre de l'ordre. Et est-ce que c'est choquant pour vous, ces prises de position?
Je pense qu'ils font un peu leur politique là-dessus. C'est leur, par exemple, le Rassemblement National, c'est leur fer de lance. Effectivement, faut pas le nier qu'il y a un problème migratoire, mais je pense qu'il faut déjà chercher à traiter le problème à la racine. Donc, c'est-à-dire chercher pourquoi est-ce que ces personnes, en fait, circulent, viennent en France, pour quelles raisons. Il y a différentes raisons, et en France ou en Bretagne. Et après, en fait, je suis pas opposé, par exemple, à l'immigration, mais après, voilà, faut que ça soit encadré. Est-ce qu'on a les infrastructures nécessaires? Est-ce qu'on a est-ce qu'on a tout pour vraiment au niveau du territoire? Les accueillir, ça se réfléchit en amont. Et puis, voilà, c'est un sujet qui est très complexe et je pense qu'il faut travailler, pas au cas par cas, mais presque.
Mieux accueillir, mieux intégrer aussi ceux qui viennent, pour qu'ils apprennent la langue, pour qu'ils puissent travailler sur le territoire. Ça s'est fait dans certains secteurs. On pense à Coligny, ici, pas très loin, où beaucoup de travailleurs étrangers sont arrivés, se sont intégrés, ont fondé des familles. A priori, il n'y a pas de problème. Par contre, on a vu le cas de Callac, où il y a une forte opposition à l'installation de familles dans le cadre du projet Horizon. On a vu cette cristallisation de la colère portée par certains partis politiques, il faut bien le dire, d'extrême droite. Est-ce que ce sont des choses qui vous inquiètent quand il y a une colère qui se cristallise comme ça vis-à-vis des migrants? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui ne ressemble pas à la Bretagne?
Non, c'est pas dans la mentalité de la Bretagne qui reste ouverte, en fait. Par contre, là où je peux comprendre une certaine colère, c'est dans le sens où est-ce que la population a été consultée? Est-ce qu'on a demandé l'avis aux gens? Est-ce qu'on leur a... Voilà. Parce que, et c'est pareil.
Vous avez mis un peu devant le fait accompli, finalement.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est beaucoup de décisions, en fait, sont prises généralement à l'échelle française, au niveau de Paris, et est imposée, en fait, au territoire comme ça, aux communes, ou aux régions. Donc en fait, demander l'avis aux gens, vérifier aussi de par des audits si les infrastructures, par exemple pour les enfants, est-ce qu'il y a assez de place à l'école. Pour les médecins aussi, il faut assez de médecins, parce que déjà on a aussi une difficulté là-dessus pour soigner nos citoyens. Donc faut pas fermer les frontières, faut pas refuser ces personnes, mais il faut déjà se questionner si on a les moyens de les accueillir décemment, parce qu'il y a accueillir et accueillir décemment.
Alors vous avez parlé des médecins, c'est important aussi la santé sur les territoires. Il y a cette grande souffrance de l'hôpital qui est au bord de l'effondrement. On le voit dans plusieurs secteurs ici en Bretagne, on pense à Guingamp, mais on le voit ailleurs. L'hôpital en difficulté, peu de médecins sur les territoires. Est-ce que là aussi, à l'échelle régionale, on peut changer les choses, on peut inverser la tendance?
C'est les services publics, on les paye de par nos impôts. Ces impôts-là, on n'en voit pas vraiment la couleur, en fait.
Je fais une parenthèse. Il faudrait une fiscalité régionale, finalement.
Oui, je pense qu'il y aurait plus de transparence là-dessus, parce que là, par exemple, les Bretons payent des impôts, mais ne voient pas vraiment la couleur de ces impôts. Il y a des choses qui se voient pas. On continue de payer des impôts français, mais on voit un hôpital public qui s'effondre, des classes qui ferment, voire même des écoles comme le collège Pierre Randal de Corlay. Et donc, même si c'est géré par le département, etc., en soi, c'est comme je pense que les budgets devraient être axés sur le maintien des services publics, voire même la réouverture de certains services, par exemple les maternités, comme à Dinan ou à Carré aussi, me semble que les urgences sont menacées de fermeture.
Donc là, aujourd'hui, plutôt avoir... pouvoir agir au niveau régional plutôt que là aussi une forme de nivellement et de la fiscalité et des décisions en local. Il faut écouter alors, plus largement les citoyens aujourd'hui. On parle beaucoup de référendum, de redonner la parole. Bon, c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec les législatives, mais dans d'autres circonstances. Mais donner la parole aux citoyens, donner la parole aux Bretons. On peut imaginer des référendums régionaux, locaux. On pourrait penser peut-être au retour de Nantes en Bretagne, par exemple, ça pourrait être une bonne idée.
Alors, après, à définir les limites de ce référendum, comment est-ce que la question est posée. Mais oui, l'idée de questionner la population, les citoyens, les citoyennes sur des sujets importants. Pour moi, c'est primordial. On ne peut pas prendre des décisions qui peuvent parfois être déconnectées de la réalité sans questionner les gens. Quoi.
Alors les gens, ils questionnent aussi, ce sera ma dernière question en ce qui me concerne, il nous reste trois minutes, sur la sécurité. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la sécurité ou de l'insécurité, on le voit ici en Bretagne avec l'explosion du trafic de drogue. Là aussi, il faudrait une, alors je vais mettre des guillemets, mais une sécurité régionale, une police régionale, une gendarmerie régionale, en plus de la gendarmerie nationale par exemple, ou de la police nationale.
Oui, alors déjà, ça serait une police plus de proximité, plus adaptée parce que on va pas avoir les mêmes problèmes d'insécurité que d'autres régions ou même au niveau des communes, que ça soit au niveau urbain ou au niveau rural. Mais ça tend quand même à se démocratiser. Donc oui, une police comme ça se fait, une police régionale comme ça se fait par exemple en Catalogne ou en Écosse. Après, pour moi, il y a aussi la justice qui serait aussi à réformer parce que...
J'allais vous poser la question, vous l'anticipez, voilà. C'est très bien. Donc une réforme de la justice, alors réforme au niveau national, on peut imaginer, c'est régalien, mais avec l'introduction de règles régionales aussi, de règles de justice régionales éventuellement.
Pour moi, ça serait quand même plus du régalien, en tout cas actuellement. Par exemple, il y a des choses qu'on trouve pas normales, c'est qu'un violeur qui parfois est multirécidiviste se retrouve juste encore dehors avec un sursis. Ça, c'est pas concevable. Ça devrait être les peines devraient être plus mesurées, c'est-à-dire qu'il y a des cas qui, enfin, j'ai pas d'exemple qui me viennent forcément en tête, mais
il y a une hiérarchie des
faits qui sont comment dire
des faits plus graves ou
des faits plus graves etc. qui devraient être traités en priorité et plus sévèrement.
On va voter donc, ça vous aura pas échappé dimanche.
Oui.
Le parti breton n'aura pas forcément de chance d'avoir deux députés cette fois-ci. J'imagine que
on va gagner.
Vous allez gagner, bien sûr. mais voilà, il y a une porte entrouverte à cette réflexion régionale aujourd'hui. Les gens se tournent beaucoup vers la région, beaucoup vers les partis régionalistes également, parce que voilà, il y a une envie de région. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à quelqu'un qui hésite pour aller voter, tout simplement, qui dit bon voilà, ça me concerne pas, j'ai pas envie. Vous leur demanderiez demanderiez à cette personne de se tourner vers vous?
Oui, évidemment. je fais campagne, donc je vais expliquer pourquoi. Pour moi, il faudrait déjà par les valeurs qu'on défend, par déjà la démocratie, le fait d'être entendu, parce que rapprocher le pouvoir, les marges de manœuvre plus proches d'eux, fait que ils sont plus facilement écoutés. Parce qu'ils ont, même s'ils ne s'intéressent pas à la politique, ils n'ont pas forcément de parti, ils ont quand même des idées.
Donc, voilà, défendre aussi ces idées régional. Logan Maheu, candidat du Parti breton aux législatives dans la deuxième circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Dinan, était avec nous. Je vous remercie doublement parce que je crois que vous avez pris un peu de temps sur votre travail, sur votre profession pour venir nous voir, pour être là en direct ce matin. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci de m'avoir donné la parole et je vous souhaite également une excellente journée.
Et un mot sur les autres candidats qui se présentent dans la deuxième circonscription des Côtes d'Armor. Dinan, donc, Hervé Berville, Ensemble Renaissance, député sortant, Jérémy Dauphin, Les Écologistes, Michel Desbois, Sans Étiquette, Lucie Herblin, Lutte Ouvrière et Antoine Kieffer, Rassemblement National.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.